le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter.
Et notre invitée ce matin est l'autrice d'une douzaine d'ouvrages, prix Goncourt en 2014 pour son très beau « Pas pleurer », elle vient de publier au Seuil. Depuis toujours, nous aimons les dimanches, et puisque nous aussi, nous aimons ces dimanches, nous la recevons ce matin. Bonjour Lydie Salvert.
Bonjour.
Bonjour.
Depuis toujours, nous aimons les dimanches, c'est la première phrase de votre livre, et veut vous en expliquer un peu plus loin, parce que vous l'écrivez, ils sont un temps vivant, un temps délivré de la méchanceté, des corvées, des peines, un temps pour respirer, un temps pour s'arpenter et pour s'asseoir en soi et se recueillir. Votre livre, Lydie Salvert, ça ressemble à une critique du travail, une apologie de la paresse, mais pas n'importe quelle paresse. Qu'est-ce que c'est pour vous la paresse et qu'est-ce que ça n'est pas aussi ?
Mais depuis deux siècles à peu près, il y a les tenants du travail et de la valeur travail. Ce sont les classes aisées plutôt et les tenants de l'économie libérale. Et ceux qui défendent la paresse comme contestation de ce mode de travail. Et ce sont les poètes, ce sont Baudelaire, Rimbaud, ce sont Bertrand Russell par exemple qui a écrit...
Debord,
bien sûr.
Magnifique slogan de 1953.
Ne travaillez jamais.
Ne travaillez jamais.
Qui reprend un peu la phrase de Rimbaud, qui dit à son professeur Isambard.
Travaillez maintenant.
Jamais. Je suis en grève. Je manquerai plus
le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. L'un de nos slogans préférés affirmant que l'on doit travailler moins pour lire plus.
Oui.
Mais c'est ça, la paresse, c'est ce que vous dites, c'est pas paresser sur son canapé, c'est pas être allongé. Voilà.
C'est pas l'inertie, c'est pas la mélancolie, c'est une chose qui incline vers les vertus paisibles, disait La Rochefoucauld.
Vous dites, elle a un goût délicieux de caramel fondant.
Oui. Puis elle a plein de vertus. La paresse de mentir nous rend sincères. La paresse de riposter aux imbéciles nous évite les aigreurs d'estomac. La paresse de se battre nous fait clément et pacifique. La paresse des manières ajoute à notre charme, paraît-il. On n'imagine pas trouver du charme à quelqu'un qui serait tout rouge, hurlant et gesticulant, etc. La paresse a mille vertus, bien sûr, et celle aussi de nous ouvrir à la pensée. C'est Henri Michaud qui disait « La paresse permet à l'âme de nager ». Je trouve ça très beau, que notre âme nage.
Mais on déteste les dimanches aussi, Lydie Salvert. Vous avez cette affirmation, et c'est le titre de votre livre, « Depuis toujours, nous aimons les dimanches ». Mais combien de personnes, et vous le savez bien comme psychanalyste et comme écrivaine, mais... comme psychanalyste essentiellement, il y a des gens qui haïssent les dimanches.
Mais parce qu'ils sont peut-être...
Ça n'est pas une évidence.
Mais bien sûr. Parce qu'ils sont confrontés au vide, sans doute. Parce qu'il faut qu'ils le comblent à tout prix. Parce que ça s'apprend, au fond. La paresse.
Ça s'apprend, la paresse.
Mais bien sûr.
Et ce sont des paresses, il y a des paresses qui ressemblent à un travail. Vous citez un autre prix Goncourt, Marcel Proust.
Oui.
Marcel Proust, lui, pendant 36 ans, lui qui ne s'était jamais donné que la peine de naître,
oui.
36 ans à ne rien faire ou quasiment rien.
Oui, mais 36 ans pendant lesquels l'œuvre va mûrir, va germer, va doucement grandir, et il l'écrira dans les dernières années de sa mort.
Oui, de sa vie. C'est un lapsus intéressant parce qu'à la recherche du temps perdu, c'est un travail extraordinaire qu'il fournit pour l'écrire.
Exténuant.
Exténuant à en mourir, justement.
Oui, absolument. Après 30 années de mondanité, de paresse coupable.
Il faut pouvoir se le permettre aussi, paresse. Il faut avoir les moyens.
Mais il faudrait que le monde change pour que tout le monde puisse en profiter.
Un revenu universel, peut-être.
Et qu'il y ait un partage du travail. C'est ce que dit et redit Dominique Méda et un certain nombre de chercheurs en sciences sociales.
Sociologues du travail.
Et humaines. Ça devrait se partager, le travail. Et Russell dit 4 heures, qui était mathématicien et philosophe, 4 heures devraient suffire. Mais j'ai envie de donner la définition de Russell sur le travail et la paresse. Il disait, il y a deux sortes de travail. Celui qui consiste à transformer la matière, celui qui consiste à dire aux autres de transformer la matière. Et une troisième catégorie, ce sont les patrons et les tenants de l'économie libérale qui tirent profit des uns et des autres et qui font la leçon à tous sur les vertus.
Et qui ont l'obsession fanatique fanatique du travail, je vous cite, qui confine à la connerie. Et ça, pour le coup, ce sont les préjugés de la bourgeoisie. Ouais. Mais vous citez aussi la Bible. La Bible est de manière un peu ironique. Sur le jour où il faut se reposer, même Dieu a besoin de se reposer le dimanche.
Mais oui, et d'ailleurs il y a des citations de l'évangile selon saint Matthieu qui dit « Voyez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent ni ne sèment, voyez les lys des champs, etc. etc. » On trouve à la fois cette incitation à la paresse depuis la nuit des temps et dans les proverbes, une condamnation de la paresse comme péché capital. Etc. Oui.
Votre livre, il est émaillé d'interpellations à des messieurs, c'est une sorte de discours en fait qui s'adresse à ceux que vous désignez alors de façon différente. Il y a les apologistes du travail des autres, messieurs les gros bonnets, les imposteurs, vous les insultez hein, même dans vos pages, je vais rester...
C'est pas moi, c'est une autre, vous avez remarqué.
C'est la narratrice qui vous cite aussi d'ailleurs, elle parle de vous à la troisième personne du coup. Qui sont-ils en fait ces apologistes du travail des autres et pourquoi vous êtes en colère contre eux?
Mais parce qu'ils... Parce qu'ils ont fait croire depuis deux siècles que le travail était absolument nécessaire et le travail non pas comme moyen pour subvenir aux besoins, mais le travail pour s'enrichir et tirer du profit, etc. C'est ça.
Ils qui? Le CAC 40, parce que vous en parlez
oui,
à un moment.
Les tenants de l'économie libérale en général.
Les apologistes du travail des autres, j'adore l'expression. Tout ça avec des tirets. Les apologistes du travail des autres qui ne pensent que pour le marché et qui considèrent le peuple comme une force. Il y a donc une dimension révolutionnaire. Et vous citez d'ailleurs l'éloge de la paresse, celui écrit par le gendre de Marx, parce qu'il y a pour vous, une critique radicale du capitalisme et un appel à la révolution par l'éloge du loisir.
Oui, c'est Fargue qui dit ça très bien et qui dit que nous sommes aveuglés sur l'idéologie qu'on nous a assénée depuis deux siècles et qui nous fait considérer le travail comme un devoir, comme une obligation, comme un devoir moral. Comme une fierté, etc., et qui lui attribue toutes les vertus du monde.
Mais quand on vous lit, le travail est un enfer, hein, c'est ce que vous écrivez, il y a même une anaphore. C'est le travail qui prématurément nous fane, c'est le travail qui nous épuise, c'est le travail qui nous fait triste. Pourtant, certains vous diraient que le travail, ça peut être aussi une source d'épanouissement, de socialisation. Il y a un discours politique sur la valeur travail.
C'est toujours la même chose. Pour mon père qui était maçon, par exemple, le travail était loin d'être épanouissant, le travail était loin d'être le lieu de la réalisation de soi, le travail était loin d'être le lieu des liens.
Certains travaux, peut-être, ça dépend desquels, des professions.
Un travail choisi qui nous laisse une part de créativité, de liberté. C'est ce que William Morris défendait. Un travail qui est les caractéristiques du travail artisanal, qui laisse une part de création de liberté, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et avec les progrès de l'informatique, souvent, au lieu que le travail soit libéré, il ajoute des tâches à des tâches. C'est ça qui est compliqué et il déshumanise. Il faudrait articuler, là encore, l'informatisation et le travail de sorte qu'elle s'harmonise.
Et c'est aux politiques de le faire, ça ?
Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré les témoignages en quantité sur la pénibilité du travail, malgré la somme de travaux de chercheurs en sociologie et sciences humaines, qui médite et réfléchit sur la valeur travail, il y a une surdité, je trouve, du monde politique ou une indifférence au travail qui est stupéfiante.
Une indifférence?
Mais je ne sais pas. J'ai trouvé cette parole de Raffarin qui disait...
Ancien Premier ministre.
Oui, ancien Premier ministre. La France n'est pas un Luna Park. Vous voyez, et ça remonte à Pétain. figurez-vous, qui dans un de ses discours attribue la défaite à la France flemmarde encouragée par le Front populaire. Vous voyez qu'il y a des racines très idéologiques et très politiques dans le fait de concevoir la paresse et le travail comme une bonne ou une mauvaise chose.
Oui, mais vous savez que l'histoire, elle est pleine de contradictions et vous-même, vous citez des manifestants de 1848 qui descendent dans la rue pour réclamer le droit au travail, Lydie Salvert.
C'est bien.
Le droit au travail.
C'est bien.
Est-ce que c'est un cadeau, finalement, le dimanche, que fait le capitalisme aux forces productives pour qu'elles puissent se reposer?
Sans doute, se requinquer un peu,
oui.
Réarmer la machine humaine.
Mais du coup, comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux? Non, parce qu'il est même question de vous. On se demande qui a écrit le livre. Est-ce que c'est vous, Lydie Salvert, ou est-ce que
non, mais bien sûr
c'est le dimanche qui a écrit ce travail?
Non, mais bien sûr que étant une fille d'ouvrier, je reviens là-dessus. Mais j'ai vu à quel point le travail était loin d'être ce que prétendent les apologistes du travail des autres. Mmh. Ça, sans doute que ça... Ça a commencé là, ce regard critique sur le travail, sans
mais,
doute.
Donc quand vous entendez...
Mais pour moi, c'est un bonheur d'écrire, par exemple.
Oui.
Qui est un travail.
Est-ce que c'est un travail...
Choisi.
Mais oui, c'est un travail choisi, un travail libre. Qui ne correspond pas vraiment à la définition du travail tel que le conçoit.
Et donc quand vous entendez le Premier ministre récemment qui souhaite réformer l'assurance chômage, diminuer la durée d'indemnisation, multiplier les contrôles sur les demandeurs d'emploi, Gabriel Attal en veut 3 fois plus d'ici 2027, ça vous inspire quoi?
Ben, je me dis qu'il faudrait lui rendre mon livre obligatoire.
L'obliger à lire votre livre.
Je plaisante. Mais oui, mais ça veut dire qu'il est, voilà, dans le camp des apologistes du travail des autres, clairement.
Alors qu'il faudrait rendre vos livres obligatoires, messieurs, ces mots que l'ami Salvert nous a carrément imposés, c'est donc quelqu'un qui n'est pas vous, qui est peut-être ce dimanche qui écrit, qui s'adresse à nous. Ils sont inscrits par Rabelais.
Ah,
au fronton de l'abbaye et sur la grande porte de l'abbaye de Thélem, et ils nous sont destinés, en tout cas flemmards à la maigre face. Levez-vous
ou
restez allongés.
Lydie Salvert, merci d'être venue sur France Inter. Vous publiez donc ce livre poétique et incisif depuis toujours.
Et joyeux, j'espère.
Les dimanches, et joyeux. Joyeux dimanche à tous d'ailleurs.
Merci,
et lisez le livre de Lydie Salvert. Depuis toujours, nous aimons les dimanches. C'est publié au Seuil.
Merci.